Frères et sœurs, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Êtes-vous perfectionniste? Êtes-vous perfectionniste? De nombreuses personnes souffrent à un degré ou à un autre de perfectionnisme et franchement, cela nuit à leur capacité d'avancer dans la vie. Cela affecte leurs relations. Cela affecte la façon dont ils se perçoivent, cela affecte leur relation avec Dieu. Je dois admettre que quand j'étais enfant, j'étais un peu perfectionniste. J'avais 8 ou 10 ans, je me souviens d'avoir entendu parler de l'importance de se fixer des objectifs et qu'il fallait avoir des objectifs à court terme, à long terme et à moyen terme. Je pouvais comprendre les courts termes et longs termes. À court terme, faire tant de pompes par jour, pratiquer le trombone ou l'accordéon, nous jouions de l'accordéon, faire mes devoirs, faire ce genre de choses. À long terme, je pouvais également comprendre, parvenir à entrer dans le royaume de Dieu, fonder une famille, me marier, réussir ma carrière, et ainsi de suite. Mais le moyen terme est un peu plus confus. Je savais que je devais avoir des objectifs spirituels, mais je pense qu'à l'âge de 10 ans, je n'ai pas su les mettre en action. Comme par exemple, dans 5 ans, je veux vaincre l'orgueil, ou la cupidité, ou l'égoïsme. Inutile de dire que je n'ai pas surmonté l'orgueil, la cupidité et l'égoïsme à 15 ans. J'y travaille encore d'ailleurs. Le plus difficile, c'est que parfois, même dans l'Église de Dieu, certains d'entre nous croient que Dieu attend de nous que nous soyons perfectionnistes. Et c'est ce qu'il veut. Ce n'est pas quelque chose que nous inventons dans notre imaginaire. Nous pensons que c'est ce qu'il attend. Nous respectons les lois de Dieu. Nous prenons au sérieux le respect des lois de Dieu. Ce qui, soit dit en passant, est un problème selon le monde. Ils diront que c'est la raison pour laquelle nous pouvons parfois avoir des difficultés avec le perfectionnisme, parce que nous essayons de garder la loi. Et ils disent, la loi n'existe plus, vous ne faites que vous culpabiliser. Et nous serions tous plus à l'aise et plus heureux, et tout irait pour le mieux si nous nous débarrassions de la loi. Nous savons que c'est faux, et que nous pouvons avoir les résultats dans le monde. Je veux dire, comment cela se passe-t-il dans le monde? Comment cela se passe-t-il dans le monde soi-disant chrétien, qui, à un moment donné, il y a de nombreux siècles, a décidé qu'il y a une meilleure façon de vivre, celle de ne pas respecter la loi de Dieu? Nous en récoltons les conséquences aujourd'hui. Notre monde devient fou. Ce n'est donc pas le respect de la loi qui pose le problème. Si ce n'est pas le cas, quel est le problème? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Le titre de mon sermon est « Dieu exige-t-il le perfectionnisme? » Dieu exige-t-il le perfectionnisme? Commençons par Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Un passage très familier, et je pense qu'en y allant, vous verrez où je veux en venir. Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Jésus parlait de beaucoup de choses différentes, de choses très profondes, spirituelles. Et au verset 48, il a dit, Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Point final, voilà. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est notre but, n'est-ce pas? C'est notre destin, c'est notre travail, c'est ce qui est exigé, c'est d'être parfait. Et nous pouvons nous méprendre sur ce point. Regardons un peu plus loin. Lorsque nous parlons du mot « parfait », nous l'envisageons peut-être dans son sens moderne. Être sans erreur, obtenir 100% à un examen, c'est une note parfaite, n'est-ce pas? Dieu est-il en train de dire que la norme qui lui plaît dans la vie et que nous ne fassions aucune erreur? Eh bien, gardez votre place ici Et reportons-nous rapidement à Matthieu 25, verset 24. Matthieu 25, verset 24, car nous avons un exemple qui, je pense, répond très rapidement et profondément à cette question. La parabole est là. Leur maître est parti et ils devaient travailler, faire quelque chose. Lorsque le maître revint, les deux premiers, avaient fait quelque chose avec leur talent, de l'investissement, de l'argent qu'il leur avait donné, n'est-ce pas? Versets 24 et 25. Qu'en est-il de celui qui n'a reçu qu'un talent? Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici. Prends-le, prends ce qui est à toi. » Et bien sûr, nous connaissons l'histoire. À la fin, le maître était furieux contre lui parce qu'il n'avait pas pris le temps d'utiliser l'investissement pour faire quelque chose de positif. Pourtant, ce serviteur n'avait commis aucune erreur. Peut-être avait-il plus peur de faire une erreur qu'il n'était prêt à sortir et faire quelque chose avec. Et le maître n'était pas du tout content. Revenons à Matthieu 5. Il ne s'agit donc pas de ne pas faire d'erreur. Ce n'est pas le but que Dieu a pour nous dans la vie. Ce n'est pas la norme la plus élevée que nous puissions atteindre. Il est clair qu'il y a autre chose. Revenons à Matthieu 5, verset 48. Nous lisons Matthieu 5, 48. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Parlons un peu du mot grec. Cela n'est probablement pas inconnu de beaucoup d'entre nous, mais c'est intéressant. Lorsque vous regardez le mot grec utilisé ici, c'est « telios ». D'après le dictionnaire de l'International Standard Bible, il signifie principalement « avoir atteint la fin, le terme, la limite, complètement, pleinement, parfaitement ». La racine « télé » nous donne des mots tels que « télévision », »,« téléprompteur », »,« télescope », »,« téléconférence ». Il signifie « regarder vers ». Il signifie quelque chose de lointain, juste à la fin. La ligne d'arrivée est quelque chose de complet. Ce mot « parfait » ne signifie donc pas seulement qu'il faut éviter les erreurs. Il s'agit d'atteindre un point final, de franchir la ligne d'arrivée. Qu'en est-il dans l'Ancien Testament? Le mot « parfait » y apparaît également. Et nous pourrions croire que l'Ancien Testament est certainement beaucoup plus dur, méchant et sévère, n'est-ce pas? L'exigence de l'Ancien Testament était donc de ne pas commettre d'erreur, n'est-ce pas? Eh bien, Genèse 6, verset 9, la version Darby dit « Noé est un homme juste, il était parfait, intègre dans le Louis II, parmi ceux de son temps. » Devinez ce que signifie ce mot hébreu. C'est le mot hébreu « tanim » qui signifie « complet », tout comme « telios ». Il existe certainement d'autres mots traduits par « parfait » et oui, il y a un autre mot hébreu qui l'est, c'est « shalem ». Et dans 1 Roi 8, verset 61, la version Darby dit « Et que votre cœur soit parfait avec l'Éternel notre Dieu pour marcher dans ses statuts, pour garder ses commandements, comme il en est aujourd'hui. » Si vous avez d'autres versions de la Bible, vous verrez peut-être qu'ils ont changé le mot parfait par « que votre cœur soit tout à l'Éternel » ou « soit intègre ». Ce mot également traduit dans la version King James par « parfait » signifie « achevé », « fidèle », »,« loyal », comme il a été traduit, « achevé », »,« entier », »,« entièrement dévoué à Dieu ». Ainsi, un mot grec et deux mots hébreux, tous traduits par « parfait », signifient « entier »,« complet », »,« la ligne d'arrivée ». Qu'en est-il du mot anglais « perfect » ? Il vient du français d'un verbe latin signifiant « finir ». N'est-ce pas intéressant, la façon dont nous utilisons « parfait » aujourd'hui ? L'usage courant signifie « sans erreur », mais à l'origine, la définition et l'utilisation du mot parfait en anglais viennent d'un verbe latin qui signifie « finir », « terminer », »,« achever ». Ainsi, de toutes parts, nous constatons que les mots ne signifient pas ce que nous pouvons penser qu'ils signifient. Revenons donc à Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. N'est-il pas intéressant de noter que la suite du verset nous montre le contexte de ce mot? Il dit d'être parfait, d'être complet, d'être pleinement développé, de franchir la ligne d'arrivée, d'être mûr, d'être mature, tout comme votre Père est parfait. Il dit, regardez, c'est le point final. Vous voulez être comme Dieu. C'est un sens très différent. Depuis, nous avons le mot parfait aujourd'hui. Et cela a de grandes conséquences. Il y a plusieurs années, M. Herbert Armstrong écrivit à ce sujet dans le livre « Une éducation sexuelle enfin complète » les parallèles entre la vie spirituelle et la vie physique. Permettez-moi de lire un extrait de la page 52. Toute vie humaine procède d'un œuf minuscule appelé ovule, produit au sein de la mère. Il est à peu près de la taille d'une pointe d'épingle. Il possède un petit noyau que l'on peut apercevoir au microscope. Il n'a qu'une vie limitée, environ 24 heures selon les savants, à moins qu'il n'ait été fécondé par un spermatozoïde mâle produit par le père. Cette cellule spermatique est la plus petite de tout le corps humain, moins d'un 1/16 de la grosseur de l'ovule. En pénétrant dans l'ovule et en s'unissant à son noyau, elle lui communique la vie humaine physique. Cet être engendré, appelé embryon pendant les 4 premiers mois, et jusqu'à sa naissance un fœtus, il doit être nourri d'aliments tirés du sol par l'intermédiaire de sa mère. Grâce à cela, il croîtra pour naître au bout de 9 mois, après avoir atteint la taille nécessaire. Au cours de cette croissance, ses organes et ses caractéristiques physiques sont développés progressivement. D'abord, une colonne vertébrale, puis la tête, puis les jambes, des bras. Un cœur commence à battre. Enfin, les cheveux lui poussent et des ongles apparaissent. Peu à peu, les traits de son visage prennent forme. Après 9 mois, il pèse entre 3 et 5 kilos. Il est prêt à naître. Pourquoi est-ce important? Plus loin, la version anglaise déclare, « De même que le spermatozoïde humain est la plus petite de toutes les cellules humaines, de même, de nombreux chrétiens nouvellement engendrés commencent par une toute petite mesure du Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup d'entre nous peuvent encore être, au début, environ 99,44% charnels. J'aime cette statistique. Ainsi, l'une de nos jeunes femmes qui a été baptisée la semaine dernière, je suis désolé, mais vous êtes encore charnel à 99,44%, plus ou moins. De même que le fœtus doit grandir physiquement pour naître, de même le chrétien engendré doit grandir dans la grâce et la connaissance de Christ. 2 Pierre 3,18. Il doit vaincre, développer son caractère spirituel au cours de cette vie, afin de naître dans le royaume de Dieu. Et comme le fœtus physique développe graduellement un par un les organes physiques, les traits et les caractéristiques, de même le chrétien engendré doit graduellement, continuellement développer le caractère spirituel. L'amour, la foi, la patience, la douceur, la tempérance, il doit vivre de la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il doit développer le caractère divin. Que disait M. Armstrong? Il disait qu'un embryon ne ressemble pas immédiatement à un être humain au moment de la conception, n'est-ce pas? Les deux cellules se rencontrent, elles se rejoignent dans cette union, et il y a une cellule fécondée qui se divise. Ces cellules se divisent et continuent de se diviser, mais au début, elles ressemblent juste à un paquet de cellules. Elles ne ressemblent pas à un être humain. Elles le deviendront, mais pas encore. Il en est de même pour les chrétiens nouvellement engendrés, comme l'expliquait M. Armstrong. Ils ne ressemblent pas immédiatement à leur père spirituel au moment du baptême. Pensez-y un instant. Lorsque vous êtes baptisé, vous êtes pur à ce moment-là. Vous êtes sans péché à ce moment-là. Vous êtes innocent à ce moment-là. Il n'y a pas de péché à votre compte. Mais vous n'êtes pas encore parfait. La perfection ne signifie pas seulement être sans péché. La perfection signifie être adulte, mature. La différence est énorme. Sinon, nous serions parfait dès le baptême et prêt à être transformé en un être spirituel dans la famille de Dieu pour toujours. Mais ce n'est pas le plan. Revenons donc à Matthieu 5, verset 48. Nous finirons par passer à autre chose, ne vous inquiétez pas. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce verset nous renvoie à Dieu, pour que nous soyons comme lui. Il est intéressant de revenir quelques versets en arrière, au verset 43, Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? En d'autres termes, soyez comme Dieu. Tel est notre destin, notre but, à être complet. C'est très différent du perfectionnisme. Allons à Éphésiens 4. Et pourtant, nous pouvons parfois confondre ces choses et nous imposer une pression excessive qui n'est pas productive, qui ne porte pas de fruits et qui ne nous aide pas à atteindre notre but. Éphésiens 4, verset 12. Pourquoi avons-nous l'Église? Comme l'a expliqué M. Armstrong, l'Église nous nourrit. Comme un embryon, nous grandissons. Et c'est ce que nous trouvons ici, Éphésiens 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, parfait en anglais, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes censés être parfaits, n'est-ce pas? Sans aucune erreur. Ou est-ce un peu différent? C'est le même mot que dans Matthieu 5. Un homme pleinement adulte, pleinement développé, mûr, mature, complet. Et remarquez, il ne s'agit pas de nous mesurer les uns aux autres. Il ne s'agit pas de dire « Mon but est de grandir plus que toi ». Non. Il nous dit de nous mesurer versus le standard. Et le standard, c'est le Christ. Verset 14 et 15. « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Nous devons donc grandir pour ressembler à notre Père, et nous devons grandir pour ressembler à notre frère aîné, Jésus-Christ. Voilà ce que signifie la perfection. C'est là que nous allons. Reportons-nous à Romains 10, Romains 10, versets 1 à 3. Voici une autre référence, Romains 10, versets 1 à 3. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Parfois, nous établissons notre propre mesure, notre propre imagination de la justice, et c'est ce que nous nous efforçons d'atteindre, alors que ce n'est pas du tout ce que Dieu attend. Remarquez le verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Il est intéressant de constater à quel point le monde chrétien dominant se trompe largement sur ce verset, l'interprétant à tort comme si le Christ était la fin de la loi, ce qui signifie que lorsque le Christ est venu, il a supprimé la loi. Ce n'est pas du tout ce que ce verset signifie. Ce n'est pas ce qu'il dit, parce que ce mot « fin », de manière intéressante, est le même mot grec télios, le but, la complétude, la ligne d'arrivée. En d'autres termes, nous ne nous débarrassons pas de la loi car elle nous guide, elle nous apprend à ressembler à Dieu, à notre Père, à notre frère aîné. Lorsque l'on pense au perfectionnisme, qui lutte contre le perfectionnisme? Vous n'avez pas besoin de lever la main, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Parfois, nous pensons qu'il n'y a que les adolescents, les jeunes, qui luttent avec le perfectionnisme, et c'est le cas de beaucoup d'entre eux. Mais il peut aussi s'agir de personnes plus âgées. Certains de nos frères plus âgés ont parfois exprimé des doutes. Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je le rends heureux? Est-ce que je serai dans son royaume? Ils respectent les lois de Dieu, ils suivent ce mode de vie, mais ils luttent. Ils se sentent coupables parfois à 70 ans ou à 80 ans. Cela peut toucher les personnes de tous âges, et si c'est votre cas, ce message est pour vous. Ils se sentent peut-être coupables de ne plus pouvoir faire certaines choses qu'ils faisaient quand ils étaient plus jeunes. Mais c'est une saison de la vie. Les choses changent, n'est-ce pas? Physiquement, au niveau de l'endurance, de l'énergie et de la force, des attentes irréalistes peuvent conduire à la déception, au perfectionnisme et au découragement. Qu'en est-il de nos femmes? Parfois, les femmes au foyer, les épouses et les mères pensent qu'elles doivent être la femme au foyer parfaite, l'épouse parfaite, la mère parfaite, qu'elles doivent tout faire à 100% à tout moment. Elles se sentent coupables si elles ne font pas tout parfaitement dans la gestion du foyer. Mais la vie n'est pas faite ainsi. Quelqu'un tombe, fait un gâchis, fait une crise de colère, et vos grands projets du jour s'arrêtent net, n'est-ce pas, madame? Ce n'est pas toujours parfait. Et cela peut entraîner un sentiment de culpabilité. Si c'est votre cas, ce message est pour vous. D'autres sont des femmes seules. Elles peuvent être rongées par la culpabilité. Elles peuvent se dire, « Eh bien, je n'ai pas la responsabilité d'avoir des enfants dans ma vie ou un mari, de m'occuper d'une famille, et je ne fais pas les choses parfaitement, et je me sens parfois coupable. Est-ce que je plais vraiment à Dieu? » Les hommes peuvent être dépassés et perfectionnistes. Nous attendons parfois trop de notre époux ou épouse. Si nous sommes mariés, nous pouvons être trop critiques et grincheux. Dans le cadre de nos responsabilités, nous pouvons nous inquiéter et nous faire du souci. Dans notre travail, nous pouvons même devenir des accros du travail à cause de notre perfectionnisme. Cela peut donc s'appliquer à plusieurs d'entre nous. Ne vous me prenez pas. Il est important d'avoir des normes élevées et de viser l'excellence. Je ne voudrais pas que quelqu'un interprète mal ce message. Chaque fois que je passe sur un pont, je suis très reconnaissant qu'à un moment donné, un ingénieur ait eu de très bonnes notes à l'université avant de construire ce pont. Dans quelques mois, je vais me faire poser une couronne chez le dentiste. Et je suis très heureux que mon dentiste ait fait de bonnes études. Je ne me sentirais pas très confiant si j'entrais dans son cabinet en me disant qu'il s'est simplement bien débrouillé à l'école. Vous savez, au bureau de l'Église, l'administration planifie les sites de fête des tabernacles et nous travaillons en lien avec le département légal pour signer les contrats et nous devons faire attention aux détails et être précis. Sinon, nous pouvons commettre de grosses erreurs. De plus, M. Weston nous incite tous à examiner nos processus et à chercher des moyens d'améliorer la manière dont nous servons l'Église, dont nous servons nos abonnés et nos membres. Tout cela est important. Rien de ce que je dis ne doit nous détourner de cela. Comprenez-moi bien. Ce que je veux dire, c'est que parfois notre incompréhension de la manière de parvenir à cette recherche de l'excellence peut vraiment nous entraîner sur la mauvaise voie et nous blesser nous-mêmes. Qu'en est-il de nos adolescents et nos jeunes adultes? On a beaucoup écrit sur les pressions qui pèsent sur les jeunes aujourd'hui. Il existe des pressions uniques qui n'existaient pas lorsque beaucoup d'entre nous avaient cet âge. Bien sûr, il y a toujours eu la pression des pairs et la pression sociale, mais Internet et l'expérience en ligne l'ont porté à un tout autre niveau. Et cela a créé un monde irréel dans lequel ils peuvent être aspirés et qui peut créer beaucoup de problèmes en raison du sentiment de perfectionnisme qu'ils doivent atteindre. Permettez-moi de lire un extrait d'un article paru le 3 avril 2020 à Adélaïde, en Australie, intitulé « L'estime de soi et le sommeil, le besoin de perfection et les pensées négatives empêchent les adolescents de dormir. Les années entre l'âge de 12 ans et 20 ans sont une période de découverte de soi et de doute pour l'adolescent moyen. Il est difficile de ne pas se comparer aux autres à l'école, surtout à l'heure d'Instagram et des selfies. Or, une nouvelle étude menée à l'Université Flinders révèle que les adolescents souffrent le plus souvent d'insomnie en raison des pensées négatives persistantes et d'un besoin d'atteindre la perfection. Pour ne rien arranger, le manque de sommeil contribue généralement aux symptômes de la dépression et de l'anxiété, créant un cercle vicieux de comparaison, de faible estime de soi et de négativité. Près de 400 adolescents âgés de 14 à 20 ans ont participé à cette étude en ligne et les chercheurs affirment que leurs résultats valident la théorie selon laquelle il existe un lien entre les pensées négatives constantes et la difficulté à s'endormir. Il s'avère que le perfectionnisme aggrave encore ce phénomène. En tant que parents, nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos enfants à naviguer dans ce monde et à le comprendre. Vous savez, nos filles peuvent logiquement et intellectuellement comprendre que les photos et les moments forts des influenceurs et des YouTubers, des affiches sur les différentes plateformes, ou même de leurs amis, ne représentent pas la réalité. Je sais que leur vie n'est pas vraiment parfaite, mais toutes les photos les représentent à leur meilleur moment, à leur moment le plus drôle, à leur moment le plus mignon. Ce sont les meilleures images de leur vie cette semaine-là. Et même si je sais intellectuellement que c'est le meilleur moment, lorsque j'inonde mon esprit d'images constantes du meilleur moment de tous les autres, je ne peux m'empêcher de penser à un moment donné, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et qui nous fait penser que quelque chose ne va pas avec nous-mêmes. Vous savez, franchement, frères et sœurs, nous avons un énorme avantage dans l'Église par rapport au monde en général, parce que nous avons un sens aigu de la communauté et de la fraternité en nous réunissant comme ceci, comme nous le faisons en ce moment, fraterniser avant et après les assemblées, et nos jeunes sont tous impliqués dans ce processus. Ils doivent affronter et apprendre les moments délicats de la communication face à face. Et parfois, ces moments sont gênants, n'est-ce pas? Parfois, les relations sont embarrassantes et inconfortables lorsqu'elles se déroulent face à face et en personne, et c'est bien! Parce que c'est la vraie vie, et cela nous aide à grandir. Contrairement au monde d'irréalité que les expériences en ligne donnent, qui franchement contribue à l'anxiété, à la fatigue, à la dépression et à toutes ces choses. Quel énorme avantage de faire partie d'un groupe qui se réunit comme une famille chaque semaine et dans les congrégations à travers le monde. Dans les années 1920, Woodrow Wilson, un ancien président américain, a écrit un livre. Je l'ai lu à l'université. Il m'a vraiment frappé par sa puissance. J'aimerais en partager un extrait avec vous. Il s'intitule « When a man comes to himself », « Quand un homme vient à lui-même » et s'adresse aux jeunes hommes, mais vous pouvez aussi l'appliquer aux jeunes femmes. Il écrit « C'est un changement très sain et régénérateur qu'un homme subit lorsqu'il vient à lui-même. Il revient à lui après des expériences dont lui seul peut être conscient, lorsqu'il a cessé d'être entièrement préoccupé par ses propres pouvoirs et intérêts et par tous les plans insignifiants qui sont centrés sur lui. Il n'y a pas de moment fixe dans la vie d'un homme où il se réalise, et certains hommes ne se réalisent jamais. Je pense que nous pouvons nous identifier à cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont physiquement adultes, mais qui agissent comme des enfants, qui s'insultent les uns les autres, des dirigeants gouvernementaux, des célébrités du monde du spectacle, des professionnels des médias, qui n'agissent pas comme des adultes. Je pense que c'est ce que dit M. Woodrow Wilson. Et franchement, c'est très important pour notre génération de penser à ce que Dieu attend de nous. Il ne veut pas seulement que nous péchions moins, oui, cela aussi, mais il veut que nous grandissions. Il veut que nous soyons pleinement mûrs, matures et complets comme lui, comme le Christ. M. Wilson dit, il ne fait aucun doute que pour la plupart des hommes, c'est par le lent processus de l'expérience à chaque étape de la vie. Lorsqu'un homme vient à lui, il comprend ce qu'est la capacité et à quoi elle est destinée. Il voit que sa formation n'était pas destinée à l'ornement ou à la gratification personnelle, mais à lui apprendre à se servir de lui-même et à développer des facultés qui valent la peine d'être utilisées. L'homme qui ne vit que pour lui-même n'a pas commencé à vivre et n'a pas encore appris son utilité dans le monde et y trouver son véritable plaisir. Il n'est pas nécessaire qu'il se marie pour se découvrir, mais il est nécessaire qu'il aime. Des hommes sont venus à eux-mêmes en servant leur mère avec un dévouement désintéressé, ou leur sœur, ou une cause pour l'amour de laquelle ils ont abandonné l'aisance et cessé de penser à eux-mêmes. C'est l'action désintéressée qui évolue lentement vers la haute habitude de la dévotion, qui enseigne à un homme le sens profond de sa vie et fait de lui un professionnel de la vie, si le motif n'est pas la nécessité, mais l'amour. Le christianisme nous a donné, dans la plénitude des temps, l'image parfaite de la vie juste. Il est certain qu'il n'avait pas une vision complète du véritable christianisme, mais il avait une idée d'un mode de vie, et il l'a décrit. Il continue, « Le secret du bien-être social et individuel, car ces deux sont inséparables, et l'homme qui reçoit et vérifie ce secret dans sa propre vie a découvert non seulement la meilleure et unique façon de servir le monde, mais aussi l'unique et heureuse façon de se satisfaire lui-même. C'est alors, en effet, qu'il est parvenu à lui-même. L'expérience adoucit, fortifie et rend plus apte, et la vieillesse apporte non pas la sénilité, non pas la satiété, non pas le regret, mais une plus grande espérance et une maturité sereine. Lorsqu'un homme vient à lui-même ou qu'une femme vient à elle-même, ils comprennent pourquoi ils sont ici. » Et frères et sœurs, nous avons une image tellement plus grande que celle dont il parlait, n'est-ce pas? Nous comprenons vraiment que nous devenons comme Dieu et comme notre frère aîné, et c'est notre destinée. Il y a tellement de passages qui parlent de la perfection et du fait de devenir parfait, et c'est une étude fascinante à faire. Mais passons maintenant à des exemples pratiques. Si nous comparons et opposons deux mentalités, l'une perfectionniste et l'autre axée sur la croissance, quelles sont les différences? La première des différences est que le perfectionnisme vise des résultats immédiats, tandis que la mentalité de croissance vise le succès à long terme. Le perfectionnisme vise les résultats immédiats, tandis que la mentalité de croissance vise le succès à long terme. Vous savez, il arrive que nous soyons aux prises avec quelque chose que nous devons changer, nous devons être meilleurs. Nous pouvons être focalisés sur les résultats immédiats. Nous pouvons tomber dans le piège du perfectionnisme qui nous pousse à tout changer immédiatement. Que se passerait-il si une personne n'avait pas fait d'exercice pendant 6 mois, 0 exercice. Puis se disait qu'il était temps de suivre un programme et faisait de l'exercice 1 jour. Est-ce que cela transforme immédiatement cette personne sédentaire en une personne totalement en forme? Bien sûr que non. Nous ne le supposerions pas. Il faut du temps, n'est-ce pas? Alors pourquoi attendons-nous parfois ce genre de changement instantané en nous-mêmes? Lorsque j'étais adolescent, je jouais au basketball. J'avais de grandes mains, je pouvais tenir un ballon de basket avec une seule main, et c'était amusant. Mais j'ai toujours voulu dunker, mais le problème, c'est que je n'arrivais pas à sauter. J'ai donc travaillé sur mes sauts. J'ai fait des exercices et des recherches sur la façon d'augmenter la hauteur de mes sauts. J'ai trouvé un livre formidable et une théorie et un concept vraiment fascinant sur la façon d'améliorer mes sauts. Ce qu'ils disent, c'est que vous marquez un endroit sur le mur. Assurez-vous que votre mère est d'accord avec cela. Vous sautez aussi haut que vous le pouvez et vous marquez cet endroit. Puis vous attendez 2 semaines. Chaque jour, pendant ces 2 semaines, vous faites vos exercices. Et 2 semaines plus tard, vous vous testez pour voir si vous pouvez atteindre cette marque ou plus. La tentation est grande de se tester tous les jours, n'est-ce pas? Mais il disait, ne le faites pas, parce qu'au jour le jour, vous ne verrez pas de croissance. En fait, vous risquez même de régresser. Il se peut qu'un jour, vous soyez pire que la veille, et le lendemain, vous pourriez être pire que les 2 jours précédents. Mais si vous faites vos exercices, vous finirez par progresser. Et je me suis dit, quel bel exemple! Je n'ai jamais pu dunker le ballon de basket, mais j'ai trouvé que c'était un excellent concept et j'en ai appris beaucoup. M. Wallace Smith a donné une étude biblique récemment. Il a parlé de la façon dont Dieu travaille sur le long terme. Dieu a une vision à long terme, comme un fermier. En tant qu'agriculteur, vous devez planifier à l'avance. Vous devez préparer vos champs, vous devez acquérir la semence, vous devez semer la semence. Quand on pense à un agriculteur, on se rend compte à quel point il doit regarder devant lui et avoir une vision à long terme. Il n'y a pas de succès instantané dans ce métier. Il met la graine en terre et attend. Il attend. Il y a de la croissance, même quand on ne voit rien arriver. Il est intéressant de penser à l'ancien Israël et aux saisons de croissance au Moyen-Orient. L'orge était semée en novembre et décembre, puis les pluies arrivaient. À l'heure actuelle, nous considérons cette période comme l'hiver. Rien ne pousse, du moins dans le nord. Mais là-bas, les mois de novembre, décembre, janvier et février constituent une saison de croissance. Ce qui a été planté en novembre et en décembre, au moment des fortes pluies, pousse lentement et finalement récolté aux alentours des jours saints du printemps. Si l'on y réfléchit bien, nous sommes actuellement dans la période de croissance. Il y a quelques années, M. Hernandez a fait un sermon à ce sujet, sur les pluies de l'avant et l'arrière-saison. Il parlait également de cette période. C'est une saison de croissance. Et nous sommes dans cette saison de croissance. Reportons-nous à 1 Jean 3, verset 7. 1 Jean 3, verset 7. Parfois, nous ne pouvons pas voir la croissance. Elle est imperceptible. Vous êtes-vous déjà assis pour regarder un arbre grandir? Combien de temps devez-vous rester assis pour vous rendre compte que rien ne va changer devant vous? Puis, vous vous éloignez, vous vous occupez de vos affaires, vous faites d'autres choses, vous occupez, et 3 ans passent, et vous regardez à nouveau cet arbre, et vous vous dites, « Wow! Comment est-ce arrivé? » Pourtant, durant tout ce temps, il poussait. Il en va de même pour nos vies. 1 Jean 3, verset 7. Dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Nous sommes donc ici pour marcher à notre rythme, pour pratiquer la justice, pour travailler à être comme Dieu, et à nous efforcer de l'être de plus en plus à chaque jour, sans attendre une perfection instantanée. Ce n'est pas un permis de faire le mal. Je pense que nous comprenons tous cela. Mais nous n'attendons pas une perfection instantanée, ce qui pourrait nous décourager. Et cela nous amène au point suivant. Numéro 2. Le perfectionnisme est facilement découragé. L'état d'esprit de croissance est résilient. Le perfectionnisme est facilement découragé. L'état d'esprit de croissance est résilient. Lorsque nous sommes dans un état d'esprit de croissance, les erreurs ou les corrections ne font pas autant mal que si nous sommes dans un état d'esprit de perfectionnisme. Dans un tel état d'esprit, les erreurs ou les corrections peuvent nous écraser, nous pousser à nous emporter, nous mettre en colère, sans même que nous sachions pourquoi nous sommes en colère. Mais si nous sommes tellement choqués, horrifiés et déçus lorsque nous commettons des erreurs, nous oublions que nous sommes humains. Nous oublions que c'est un processus et que peut-être nous avons une pensée trop perfectionniste dans notre esprit et que nous ressentons même le besoin de projeter cela sur les autres. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. L'amour se perfectionne en nous. Et plus nous avons la mentalité de Dieu, plus nous avons un amour complet. C'est ce que l'amour parfait, c'est un amour complet. C'est son amour. C'est un amour complet, mature. C'est l'amour complet. Et plus nous avons cela, moins nous aurons peur de l'avenir. En suivant Dieu et en marchant avec lui, nous trébuchons, nous tombons, nous nous repentons, nous nous relevons. Nous continuons à avancer et Dieu est satisfait de nous. Et nous pouvons en être confiants. Et il dit au verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Encore une fois, qu'est-ce que cela signifie, être rendu parfait dans l'amour? Eh bien, il ne s'agit pas de notre amour, c'est là l'essentiel. Il ne s'agit pas d'essayer d'atteindre une sorte d'amour que nous fabriquons, c'est l'amour de Dieu. Il s'agit de regarder la finalité, c'est voir comme qui nous essayons de devenir, comme notre père et notre frère aîné. Et c'est leur demander de mettre leur amour en nous. Et plus nous avons cela, moins nous aurons peur. Vous savez, pensez au discours des clubs des orateurs. Cela peut être très intimidant. Selon de nombreux sondages, je pense que c'est l'une des craintes les plus importantes. Pourtant, si un homme du club des orateurs dit « D'accord, je suis ici, c'est terrifiant, mais je suis ici pour servir ceux qui m'écoutent. Je suis ici pour leur donner quelque chose. » Et que le sujet de son discours soit comment changer un pneu, ou comment plier un costume, ou comment, quel que soit le sujet, mais si l'homme pense « je suis ici pour donner quelque chose à tous ceux qui sont présents », peut-être même que je raconte une histoire drôle dans mon discours, et que quelqu'un dans la foule a vraiment eu une semaine difficile, et que le temps du club le relève un peu, lui donne un peu d'encouragement et les aide à oublier certaines des choses qu'il a vécues. C'est-à-dire, tout ce que je peux faire pour ne plus penser à moi-même et plutôt me concentrer sur la tâche à accomplir, c'est cela, avoir un amour plus parfait, plus complet, n'est-ce pas? Parce que c'est ainsi que Dieu pense. Et lorsque nous faisons cela, nous sommes moins enclins à nous effondrer lorsque nous faisons des erreurs ou que nous sommes corrigés. Le fait d'avoir un état d'esprit axé sur la croissance renforce notre résilience, car nous ne sommes pas écrasés lorsque nous commettons des erreurs ou que nous sommes corrigés. Troisièmement, le perfectionnisme est critique et exigeant envers les autres. Un état d'esprit axé sur la croissance permet d'ignorer les erreurs avec patience. Numéro 3. Le perfectionnisme est critique et exigeant envers les autres. Un état d'esprit axé sur la croissance permet d'ignorer les erreurs avec patience. Parfois, nous nous disons, « J'attends beaucoup de moi, c'est pourquoi j'attends beaucoup des autres. » Et nous pouvons utiliser cela comme excuse pour être exigeant, critique, insultant et humiliant. Ce n'est pas ce que Dieu rend. Vous savez, en tant que parent, il est difficile de trouver le bon équilibre entre l'attente de l'obéissance et l'absence de critique excessive. mais nous devons nous efforcer d'y parvenir. Nous devons nous efforcer de ne pas être des parents perfectionnistes qui poussent leurs enfants à être performants et qui, lorsqu'ils commettent une erreur, les méprisent ou les ridiculent. Certes, s'ils agissent de manière inappropriée, s'ils mentent, s'ils sont rebelles, il faut réagir en fonction de l'infraction. Mais ce n'est pas la même chose que les insulter, que de se moquer d'eux, que de les mépriser. Vous savez, lorsque les enfants apprennent à marcher, si un bébé rentre, puis se lève et fait quelques pas, que faisons-nous en tant que parents? Nous les regardons et nos visages s'illuminent, n'est-ce pas? Observez les parents lorsque leurs enfants font leurs premiers pas. C'est incroyable! Ils sont tellement excités! Ils tendent leurs bras et disent « Oui, c'est ça, vas-y! » Et que se passe-t-il? Le petit enfant tombe. Et il se peut qu'il pleure un peu, quelques larmes, ou qu'ils aient l'air un peu surpris. Imaginez maintenant la même scène si, après que ce bambin a fait trois pas et il est tombé, les parents le regardent en disant « Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé. Je suis tellement gêné. » Après tout, Suzy a fait cinq pas la première fois qu'elle a marché. Et tu ne peux en faire que trois? Imaginez s'ils étaient en colère, leur visage se décomposait et s'ils s'en allaient en disant « Je n'arrive pas à y croire, je ne peux même pas être ici. » Est-ce que c'est ce qu'un parent ferait? Bien sûr que non. Imaginez les signaux que recevrait l'enfant si le parent faisait cela. Ce serait horrible, n'est-ce pas? Parce que nous savons qu'ils apprennent à marcher, et nous savons qu'apprendre à marcher signifie qu'ils vont trébucher et tomber, et qu'ils devront se relever. Et nous pouvons comprendre cela. Mais pourquoi, parfois, alors qu'ils grandissent d'une manière différente, qu'ils soient préadolescents, adolescents ou jeunes adultes, font-ils quelque chose qui nous embarrasse? Pourquoi avons-nous parfois des sentiments et des émotions très différents de ceux que nous éprouvons lorsqu'ils essaient d'apprendre et de faire quelques pas en tant qu'un tout petit? Il s'agit de ne pas se focaliser sur notre gêne et de ne pas perdre le contrôle, simplement parce que nous sommes gênés, mais de se concentrer sur le problème. Il y a peut-être quelque chose à corriger, mais l'enfant apprend, tout comme il apprend à marcher. 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que nous ne devrions pas nous occuper des problèmes, des questions ou des accords de conduite. Mais quelle est notre attitude? Comment pensons-nous et comment l'exprimons-nous? Bien sûr, nous serons parfois contrariés, mais les rassurons-nous? Leur montrons-nous que nous essayons en fait de les aider à grandir, à être différents et à maturer? Et leur montrons-nous comment être un adulte par nos propres actions? 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Lisons les versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne semble point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point dans l'injustice, mais se réjouit dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Parfois, lorsque nous adoptons une attitude perfectionniste, nous allons faire tout le contraire de ces choses dans nos relations avec les autres, n'est-ce pas? Mais si nous sommes dans un état d'esprit orienté vers la croissance, nous allons comprendre que les autres grandissent tout comme nous, qu'il s'agisse de nos enfants ou de quelqu'un d'autre. Versets 9 à 11. Versets 9 à 11. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, Le mot est « télios », le même mot que nous avons vu dans Matthieu 5 et dans d'autres endroits. Ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Où allons-nous? Nous nous efforçons de grandir, n'est-ce pas? Nous nous efforçons de devenir matures. Et c'est là que nous pouvons aider en tant que parents. Pour revenir à cet exemple, en tant que parents, nous pouvons aider nos enfants à apprendre à naviguer dans un monde de plus en plus négatif et dans un monde où les jeunes sont de plus en plus confrontés aux pressions du perfectionnisme en raison du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Encore une fois, j'étais un pur perfectionniste quand j'étais enfant et j'étais dur avec moi-même au sujet de ma croissance, mon dépassement et ma perfection. Je parlais beaucoup à mon père et je suis récemment tombé sur un document dans lequel, en juillet 1991, j'ai écrit certaines des choses qu'il m'avait dites au cours de nos conversations et dont je me souvenais. Je l'ai trouvé dans un dossier il y a quelques jours et, vous savez, cela m'a rappelé beaucoup de souvenirs et des conversations que j'ai eues avec lui. Et j'ai été très reconnaissant qu'il m'ait aidé à avoir les outils nécessaires pour traverser une période difficile. À l'âge de 22 ans, je me demandais, qui suis-je? Quelle est ma place dans ce monde? Que signifie grandir, devenir mature et vaincre, surtout sur le plan spirituel? Les choses qu'il a dites m'ont beaucoup aidé. Ne sous-estimez pas votre capacité en tant que parent à aider vos enfants à relever les défis auxquels ils sont confrontés, non pas en leur disant simplement « arrêtez d'être perfectionniste », mais plutôt en vous asseyant et en leur parlant, en les écoutant et en parcourant le chemin avec eux, en trouvant des solutions avec eux, en découvrant ce qui les préoccupe et en les aidant à trouver leur voie dans la vie. Qu'y a-t-il de plus important comme investissement en temps que d'aider nos enfants à comprendre comment affronter le monde? L'orientation vers la croissance nous aide à être patients lorsque les autres font des erreurs, au lieu d'être prompt à condamner ou à ridiculiser. Examinons un autre point, numéro 4. Le perfectionnisme a une vision déformée de la marche chrétienne, alors qu'un état d'esprit axé sur la croissance a une vision équilibrée et saine de la marche chrétienne. Reportons-nous à Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Paul écrit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » En d'autres termes, comment vivre une vie équilibrée et saine? Eh bien, vous grandissez chaque jour en décidant chaque jour de suivre soit les désirs de la chair, soit la conduite de l'Esprit de Dieu. Et si nous suivons la direction de l'Esprit, c'est un millimètre de croissance pour cet arbre ou ce grain d'orge. Cela n'a pas l'air de grand-chose, mais si vous les additionnez au fil du temps, 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans, c'est une véritable croissance. Versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. En d'autres termes, si nous regardons notre vie et si nous trouvons des fruits comme ceux-là, nous devons réévaluer le chemin que nous suivons. Nous pouvons savoir sur quel chemin nous sommes en regardant le fruit sur l'arbre et voir que quelque chose doit changer. Je ne vais pas dans la bonne direction. Continuons maintenant au verset 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, frères et sœurs, quels fruits avons-nous dans notre vie? Avons-nous le sentiment que ces fruits se produisent? Encore une fois, pas parfaitement. Nous ne serons jamais parfaits dans l'état d'esprit des pensées sans péché, ni même dans l'état d'esprit de la maturité, jusqu'à ce que nous soyons transformés par Dieu en êtres spirituels. Mais progressons-nous dans cette direction? Nous essayons de progresser. Vous savez, si nous ne voyons pas certains des fruits que nous voulons, nous devons nous mettre à genoux et demander de l'aide de Dieu. Si nous ne voyons pas un fruit particulier dans notre vie, nous devons le lui demander. Nous pouvons lui dire, « Je veux plus de cela, s'il te plaît, aide-moi. » Nous regardons dans sa parole, nous lisons les passages qui parlent de ce qui nous manque et nous grandissons. Parfois, les fruits ne sont pas vraiment évidents. Parfois, nous sommes dans de grandes épreuves. Parfois, nous luttons. Parfois, il se passe des choses vraiment difficiles dans notre vie et nous pouvons avoir l'impression de ne pas grandir. Je ne vois pas beaucoup de ces fruits dans ma vie et peut-être nous n'avons pas beaucoup de joie à ce moment-là. Peut-être nous n'avons pas beaucoup de paix à ce moment-là. Mais peut-être que Dieu nous enseigne la patience à ce moment-là. Peut-être que c'est le fruit de ce moment. Ou peut-être est-ce la fidélité à ce moment de souffrance. Il y a peut-être un fruit, mais nous ne le voyons pas parce que nous recherchons un certain fruit alors que Dieu nous fait travailler sur un autre fruit. Qu'est-ce que Dieu développe dans notre vie? Peut-être y a-t-il un fruit sur l'arbre, mais nous sommes tellement omnubilés par le perfectionnisme que nous ne le voyons même pas. Vous savez, j'ai un prunier que j'aime beaucoup. C'est un prunier merveilleux. Les fruits ne sont pas des prunes rouges et acidulées, mais des prunes oranges et rougeâtres. Et ils sont si sucrés et sont tout simplement merveilleux. Au début du printemps, je vais voir cet arbre. Et il est difficile de voir les fruits au début, parce qu'ils sont verts, tout comme les feuilles. C'est comme s'ils se cachaient derrière les feuilles. Et au début, on se dit qu'il n'y a pas de fruits sur cet arbre. Mais quand je commence à regarder plus sérieusement, que j'écarte quelques branches et que je regarde un peu plus près, j'en vois un. Et dès que je le vois, je me souviens de son goût et j'attends avec impatience le moment où il portera ses fruits, dans 3 mois. Je sais exactement quel sera son goût. Vous savez, parfois, nous pouvons être aveuglés à tel point par le perfectionnisme que nous ne voyons pas les choses qui sont juste là, que Dieu fait dans notre vie. Et ce serait encourageant si nous nous focalisions sur celle-ci. Nous avons besoin d'être reconnaissants pour ce que Dieu fait alors que nous lui demandons davantage d'aide. Êtes-vous perfectionniste? Même si c'est le cas, ne vous découragez pas. Peut-être avez-vous simplement besoin d'une autre façon de voir la perfection, et c'est la croissance. Reportons-nous à 1 Jean 3, verset 1. Dieu ne garde pas un registre permanent de nos erreurs. Lorsque nous nous repentons, il éloigne nos péchés de nous aussi loin que l'est de l'ouest. Ses yeux sont tournés vers l'objectif final, la ligne d'arrivée, et nos yeux doivent également être tournés vers cet objectif. 1 Jean 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes dans un stade d'embryon, nous sommes seulement engendrés. Peut-être que nous ne sommes plus à 99,44% charnels, Peut-être nous avons beaucoup grandi au cours des 3 dernières décennies depuis notre baptême et que nous sommes plus qu'à 91% charnels ou peut-être à 85% charnels. Comment mesurer cela? Je ne sais rien. Mais peut-être que nous faisons des progrès et que nous ressemblons de plus en plus à mesure que cet embryon grandit à notre Père. Comme un embryon puis un fœtus ressemble de plus en plus à son père et à sa mère humain. Versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est cela la croissance. C'est là que nous devons chercher comment progresser et nous développer. Et non pas dans le perfectionnisme. Nous nous purifions parce que nous pouvons voir à travers un verre obscur où nous allons. Et qu'un jour nous regarderons dans les yeux de notre père et de notre frère aîné face à face. Et serons comme eux en totalité. Oui, brillants comme le soleil dans la gloire, mais aussi selon leur caractère. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, petit à petit. Reportons-nous à Philippiens 1, verset 3. Philippiens 1, verset 3. Le perfectionnisme est un piège qui nous empêche de progresser réellement sur le chemin du développement spirituel. Nous devons nous focaliser sur la croissance. Nous devons attendre avec impatience le jour où nous verrons Dieu et où nous lui ressemblerons. Une pensée, un concept, une vision étonnante de l'avenir que Dieu nous donne. Philippiens 1, verset 3. Est un autre exemple d'un endroit où le mot « télios » est également utilisé. Philippiens 1, verset 3. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Je suis persuadé, frères et sœurs, nous pouvons avoir confiance. Nous n'avons pas à nous poser de questions. Si nous marchons avec Dieu, si nous vivons ce mode de vie, si nous obéissons à ses commandements, et si nous suivons lorsque son esprit nous guide, nous pouvons avoir confiance. Verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est le même mot « parfait » parce que la perfection signifie l'achèvement, compléter. Frères et sœurs, c'est ainsi que nous devenons parfaits. Pas par le perfectionnisme, pas par quelque chose que nous avons imaginé dans notre esprit ou projeté selon ce que nous pensons que Dieu veut que nous fassions ou que nous soyons. Nous devenons parfaits lorsque nous entrons dans le royaume et la famille de Dieu au moment de la résurrection. C'est la perfection, c'est l'achèvement.